Il est 18h pour tout le monde, d'ailleurs, en tout cas, dans ce créneau horaire, dans ce fuseau horaire-là. Et le journal est donc présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Giuseppe Conte déroule son programme de gouvernement devant le Sénat italien. Il veut rompre avec l'austérité budgétaire et mettre fin à ce qu'il appelle le business de l'immigration. Il était réputé insubmersible. Mariano Rajoy se met en retrait de la scène politique espagnole. L'ancien chef du gouvernement démissionne de la présidence du Parti populaire. Alors que les Européens cherchent comment sauver l'accord sur le nucléaire iranien, Téhéran fait monter la pression en faisant part de sa volonté d'augmenter sa capacité à enrichir l'uranium. Réorganisation à France Télévisions dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public, les patrons de chaînes vont être remplacés par des directions transverses et la chaîne jeunesse France 4 disparaît, une annonce qui fait beaucoup réagir. Nous apportons un changement radical et nous en sommes fiers, déclare le nouveau président du Conseil italien Giuseppe Conte. Venu solliciter la confiance du Sénat aujourd'hui, il compte rapidement mettre en œuvre son programme issu d'un compromis entre le mouvement 5 étoiles, anti-système et la Ligue d'extrême droite. Dans son discours de politique générale, Giuseppe Conte s'est montré inflexible sur l'immigration clandestine et fier d'être décrit comme populiste. Le compte-rendu de Mathilde Imberti à Rome.
53 ans, novice en politique, Giuseppe Conte se présente comme un simple citoyen au service de son pays. Un profil cher aux antisystèmes du mouvement 5 étoiles, étiquette que le président du Conseil assume.
Si le populisme est l'aptitude de la classe dirigeante à écouter les besoins des gens, si antisystème signifie mettre en place un nouveau système qui retire les privilèges, nous méritons ces qualificatifs.
Le gouvernement du changement passe par un renoncement à l'austérité, selon Giuseppe Conte, plus de droits sociaux, par exemple un revenu minimum garanti aux plus pauvres. Enfin, face au défi de l'accueil des migrants, il tient un discours de fermeté proche de la Ligue.
Nous mettrons fin au business de l'immigration, qui a augmenté de manière démesurée à l'ombre d'une fausse solidarité. Pour les migrants qui n'ont pas, au sens de la loi, le droit de rester sur notre territoire, nous agirons pour qu'ils soient effectivement expulsés.
Le Sénat vote la confiance au gouvernement dans la soirée, avant la Chambre des députés demain, un feu vert quasiment garanti.
En Espagne, Mariano Rajoy jette l'éponge, expulsé de la présidence du gouvernement espagnol vendredi par une motion de censure. Il renonce également à diriger sa formation, le Parti populaire. Mariano Rajoy revendique son bilan et se met au service de la nouvelle direction qui devra être élue lors d'un congrès du parti en juillet. Les précisions de Mathieu de Taillac à Madrid.
Il y avait un vrai suspense quand Mariano Rajoy a pris la parole à la mi-journée devant la direction du PP. Allait-il partir, prenant acte à ses 63 ans de sa défaite, la première motion de censure perdue par un chef de gouvernement en 40 ans de démocratie espagnole, ou allait-il rester pour reconstruire la droite et profiter de la faiblesse de son remplaçant qui n'a aucune majorité structurée au Parlement? Rajoy a fait durer l'attente 20 bonnes minutes, revendiquant son bilan en matière économique, sur le front catalan, la dissolution de l'ETA et même la lutte contre la corruption, bien que ce soit précisément sur cette question qu'est tombé son gouvernement. Et puis Rajoy a fini par le dire.
Pendant 37 ans, j'ai servi le parti en occupant tout type de responsabilité, de militant de base à président du gouvernement espagnol, en passant par conseiller municipal. Et à présent, je pense qu'est venu le moment de mettre le point final à cette étape. Le Parti populaire doit continuer à avancer sous la direction d'une autre personne. C'est le mieux pour moi et pour le Parti populaire, et je crois pour l'Espagne également. Le reste n'a aucune importance.
Rajoy s'est même ému, cela n'arrive pas tous les jours, en évoquant la fidélité de son parti. Il a été longuement applaudi par les représentants de sa formation. Ces derniers sont déjà dans les starting blocks. Le successeur de Rajoy à la présidence du PP devrait être désigné dès juillet prochain lors d'un congrès extraordinaire ouvert aux militants.
Les États membres de l'Union européenne sont libres d'autoriser ou non le mariage homosexuel, mais ils ne peuvent pas empêcher un homosexuel européen de séjourner sur le territoire avec son conjoint. C'est ce que vient de préciser la justice européenne, saisie par la justice roumaine, qui devait trancher sur la situation d'un couple homosexuel roumano-américain, Quentin Dickinson.
Oui, voici l'affaire. Ayant vécu ensemble pendant 4 ans aux États-Unis, M. Robert Hamilton, ressortissant américain, et M. Relu Coman, citoyen roumain, se sont mariés en 2010 à Bruxelles. Par la suite, ce couple a souhaité se fixer en Roumanie, pays qui interdit le mariage entre personnes de même sexe. M. Hamilton s'est donc vu refuser une autorisation de séjour sans limitation de durée, alors que la réglementation européenne prévoit ce droit pour les conjoints non européens de citoyens de pays de l'Union européenne. Saisie par la Cour constitutionnelle roumaine, la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg a tranché ce matin. Le droit européen accorde l'autorisation de séjour aux conjoints non européens sans que le sexe de celui-ci ou de celle-ci soit précisé. C'est donc qu'implicitement, la disposition invoquée s'applique bien aux couples homosexuels. Cependant, ceci n'entame en rien la portée de la loi en vigueur en Roumanie ou dans les autres pays hostiles aux couples homosexuels. L'arrêt de la Cour européenne ne prétend pas mettre fin à cette pratique, mais en revanche impose en Roumanie le respect du mariage conclu dans un autre État membre de l'UE où l'union nuptiale homosexuelle est légale, en l'occurrence en Belgique. Monsieur Hamilton a de ce fait droit au statut de résident permanent en Roumanie.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Paris. Il sera reçu en début de soirée par Emmanuel Macron au Grand Palais pour inaugurer la saison croisée France-Israël, série d'événements culturels entre les deux pays. Mais le sujet qui préoccupe le chef du gouvernement israélien, c'est le nucléaire iranien. Il l'a déjà dit à Angela Merkel à Berlin. Il le répétera devant Theresa May demain à Londres. Et comme pour lui donner raison, l'Iran vient d'annoncer un plan visant à augmenter sa capacité à enrichir l'uranium. Autant dire que cette annonce de Téhéran préoccupe les Européens qui tentent de sauver le texte de 2015 sur le nucléaire iranien, texte fragilisé par le retrait américain. Valérie Crova a sollicité l'analyse de Thierry Coville, spécialiste de l'Iran, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
C'est un message qu'envoie l'Iran en disant « Écoutez, moi je suis prêt, si jamais justement les Européens n'arrivent pas à faire en sorte que les sanctions américaines n'affectent pas trop l'économie iranienne, l'Iran se dit qu'ils sont prêts à recommencer à enrichir l'uranium à 20%, et pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Donc pour l'instant, ils respectent l'accord, ils se tiennent prêts en gros au cas où. Donc effectivement, très clairement, il y a une menace de la part de l'Iran d'éventuellement de sortir de l'accord, mais pour l'instant, ils le respectent.
Face à cette menace, quelle est la marge de manœuvre des Européens ?
C'est la grande question. On avait l'impression que les autorités européennes avaient bien réagi en martelant leur volonté de rester dans l'accord et de faire en sorte que l'Iran reste dans l'accord, en s'élevant contre les sanctions américaines et en disant qu'ils feraient tout pour protéger leurs entreprises. Malheureusement, on a l'impression que, ou est-ce que les gouvernements européens n'ont pas été entendus, ou est-ce que les mesures qu'ils ont proposées aux entreprises n'ont pas semblé convaincantes avec les annonces de Total et de Peugeot. On a l'impression que les entreprises, en gros, ne suivent pas les gouvernements européens. Et si ça continue, il va être quand même très difficile pour les Européens de convaincre les Iraniens de rester dans l'accord.
Et comme le disait Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, PSA a cédé à la pression américaine. Le groupe automobile a annoncé hier soir qu'il préparait son retrait d'Iran, son premier marché étranger en volume. PSA aurait aimé obtenir une exemption américaine, mais cette hypothèse semblait très peu probable, explique maître Amir Ardavan Aslani, avocat de grandes entreprises françaises installées en Iran, dont PSA.
Je ne pense pas qu'aucune entreprise française ou européenne d'envergure soit à même d'obtenir une dérogation de l'OFAC de la part des autorités américaines. Puisque les Américains ont clairement dit, ne serait-ce que par la bouche de leur ambassadeur à Berlin, qu'il n'était pas question que des dérogations soient octroyées à des champions industriels européens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Américains, à travers le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien du 14 juillet 2015, ne cherchent qu'une seule chose, le changement de régime en Iran.
Pensez-vous que l'Europe puisse aujourd'hui, à elle seule, faire face à la décision américaine ?
Je pense que techniquement, dans l'absolu, c'est possible, sauf que dans la pratique, je crains que la réaction européenne n'est que de l'ordre de la rhétorique. Quand on analyse les mesures proposées par l'Europe, qu'il s'agisse des lois de blocage, qu'il s'agisse de la création d'un fonds souverain à même de financer des projets sur l'Iran, ce sont des initiatives qui vont rester des lettres mortes. Quand je pense que la BPI, qui est une banque nationale en France, ça fait 2 ans qu'elle essaye de finaliser un accord de financement avec la banque centrale iranienne, n'a pas encore réussi à déployer une ligne de crédit de 500 millions d'euros par an, ça présage particulièrement mal pour la création d'un fonds souverain à l'échelle européenne où il faut l'accord des 28 États membres. Les entreprises françaises ou européennes ou même de toute autre nationalité seront confrontées à un choix très clair. Vont-elles abandonner le marché américain qui représente 50 fois le marché iranien pour aller en Iran et risquer de se soumettre à un régime de sanctions draconien américain qui va être totalement disproportionné par rapport à l'infraction éventuelle commise? Donc le choix est clair et les entreprises se retirent.
L'avocat Amir Ardavan Aslani au micro d'Hakim Kasmi. La ministre de la Culture se veut rassurante sur la réforme de l'audiovisuel public. Les économies à réaliser d'ici 2022 seront nettement inférieures aux 500 millions d'euros évoqués dans certains médias. Selon Françoise Nyssen, le montant final d'économies à faire devrait plutôt tourner autour des 300 millions. Mais ça ne calme pas la fronde des syndicats et des députés. Un groupe de parlementaires, emmené par la députée LREM Frédérique Dumas, qui a rédigé un rapport sur l'audiovisuel public, s'insurge contre la suppression annoncée de la chaîne pour enfants France 4. Frédérique Dumas était l'invité du journal de 12h30.
Moi, ce qui m'a surpris, effectivement, dans les annonces, c'est qu'on va avoir une mission concernant l'audiovisuel extérieur, concernant Franceau. Et puis, sur France 4, par contre, seul sujet où on décide de passer France 4 sur le numérique. Alors là, sans concertation ni des acteurs, ni des Français, puisqu'on avait l'audiovisuel public, il appartient aux Français.
Et Frédérique Dumas n'est pas la seule à critiquer la décision de supprimer France 4. Bonsoir, Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Toute la filière du dessin animé est vent debout contre une telle décision.
Oui, et le hasard a voulu que le CNC a présenté ce matin les très bons résultats du secteur du film d'animation français. Cette année encore, le dessin animé français est celui qui se vend le mieux à l'étranger de toute l'Europe, qui attire le plus de clients étrangers et dont la production atteint un record historique en volume et en nombre d'emplois créés. Une bonne santé économique donc porté et soutenu depuis 30 ans par des efforts publics et notamment les crédits d'impôt, mais également les chaînes de télévision publique qui les diffusent. D'où la sidération du secteur ce matin face à les décisions de basculer France 4 sur le web. France 4 qui finance 50% des séries d'animation françaises et qui talonne dans les audiences la chaîne privée Gulli, dont le groupe Lagardère pensait même se séparer il y a encore quelques semaines. C'est donc une aberration stratégique et industrielle, s'indigne Stéphane Lebars du syndicat des producteurs du film d'animation.
Je pense qu'on confond au jour d'aujourd'hui volontairement derrière le mot jeunesse, d'un côté les enfants, les moins de 12 ans, et de l'autre côté les 13-25 ans qui ont fortement migré sur des pratiques numériques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enfants regardent des programmes de télévision à 90% devant l'écran de télévision. Donc le risque, c'est que les enfants, en fait, aillent avant tout sur les chaînes comme Gulli, par exemple.
Donc c'est du privé ?
Du privé, donc ils ont une offre qui est financée bien évidemment par la publicité, ou décident d'aller sur YouTube, qui est quand même pas sans risque pour eux, puisque comme on l'a vu ces derniers mois, il y a eu des scandales sur des dessins animés qui avaient été détournés à des fins homophobes, racistes. La télévision offre un univers régulé, sécurisé pour nos enfants.
D'où le sondage commandé par le syndicat qui montre aujourd'hui que 76% des Français sont contre la suppression de cette chaîne publique pour enfants et sans publicité. Car si France 4 disparaissait, eh bien la France serait le seul pays européen sans chaîne hertzienne pour enfants, alors même que la jeunesse est brandie comme le cœur de la réforme de l'audiovisuel public par le ministère.
Cécile de Kervas-Doué. Vincent Bolloré débouté de sa plainte en diffamation contre France 2. L'homme d'affaires n'avait pas apprécié un reportage qui lui était consacré. Reportage diffusé en avril 2016 dans le magazine Complément d'enquête. Vincent Bolloré avait poursuivi la chaîne publique ainsi que le reporter Tristan Valex. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
La justice a finalement relaxé le journaliste et France 2 sur tous les passages contestés.
9 passages posaient problème à Vincent Bolloré, tous concernaient ses affaires africaines, sujet très sensible pour l'industriel breton. Une dizaine de minutes en tout sur un portrait de 72 minutes. Il y est question notamment d'une société de production d'huile de palme au Cameroun qui compte parmi ses actionnaires Vincent Bolloré. Le reportage montre des hommes, dont certains présentés comme mineurs, travaillés dans des conditions très dures, sans protection, pour un salaire dérisoire. Les parties civiles dénonçaient une mise en scène, mais le tribunal a estimé que dans 8 passages du reportage, dont les propos étaient incriminés, aucun n'était constitutif d'une infraction. Quant au 9e passage, qui évoque l'éventualité de passe-droit octroyé au groupe Bolloré dans un appel d'offres au Cameroun, si les propos pouvaient être considérés comme diffamatoires, le tribunal a néanmoins souligné l'absence d'animosité personnelle de l'auteur du reportage, Tristan Valex, et le sérieux de son enquête. Le tribunal a par ailleurs condamné les parties civiles à verser à France 2 et Tristan Valex 3 500 € chacun au titre de frais de justice. Mais Vincent Bolloré n'a pas dit son dernier mot. Son avocat a annoncé son intention de faire appel. Par ailleurs, 2 autres procédures sont toujours en cours pour ce même reportage. L'industriel breton réclame 50 millions d'euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts commerciaux de son groupe. Et une autre procédure en diffamation a également été intentée au Cameroun, cette fois par la société de production d'huile de palme mise en cause dans le reportage.
Antoine Maret, 2018, année du retour à l'équilibre pour la sécurité sociale. Pas tout à fait, mais selon la Commission des comptes de la Sécurité sociale, le déficit global devrait se réduire fortement à moins de 300 millions d'euros, et ce grâce à une croissance meilleure que prévue. Ça ne s'était pas vu depuis 2001. Quel monde voulons-nous pour demain? Pour répondre à cette vaste question posée par les États généraux de la bioéthique, les Français ont été consultés pendant plus de 4 mois. Des débats ont été organisés en région, des auditions menées par le Comité national consultatif d'éthique à Paris. Les contributions ont aussi afflué sur Internet. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie.
Les grands axes de discussion sont résumés dans un rapport remis aujourd'hui par le CCNE.
190 pages découpées en 9 thématiques qui recensent à chaque fois le cadre réglementaire parfois complexe et les questions opinion soulevée pendant les débats, y compris au cours des auditions de personnalités qualifiées. On trouve donc dans le rapport les lignes de fracture, mais on ne sait pas si une majorité se dégage sur chaque thème. Pour Jean-François Delfrécy, le comité d'éthique a refusé de verser dans une méthodologie simpliste.
En créant un sondage en janvier, en février, en mars ou en avril. Il ne l'a pas fait. Ce qui nous intéresse, et c'est dans la construction de la bioéthique, c'est d'écouter les arguments qui font que la construction de pensée va aboutir finalement à tel ou tel type de position.
C'était donc un moment de démocratie sanitaire qui est allé bien au-delà des questions les plus polémiques sur la procréation médicalement assistée, la PMA, ou sur l'euthanasie, poursuit le professeur Delfrécy.
On a eu de très nombreuses discussions intéressantes sur la génomique, sur l'intelligence artificielle, sur le numérique et santé, sur l'avenir des neurosciences, autour du don d'organes, et sur le statut des donneurs vivants. Il y a une série de choses qui sortent de ces états généraux, et surtout où on retrouve un socle de valeurs, ce n'était pas gagné d'avance entre guillemets, de valeurs bien sûr de bioéthique, de valeurs humanistes un peu, autour finalement de la non-marchandisation, de s'intéresser aux populations les plus défavorisées, de séries de grandes questions de ce type, qui reste le socle de notre société française.
Alors ces valeurs communes n'ont pas empêché les participants d'avoir des positions parfois opposées. Tout cela est donc recensé dans le rapport. Le Comité national consultatif d'éthique rendra lui son avis en septembre. Avis consultatif sur toutes ces thématiques qui doit aider le gouvernement ensuite à légiférer en 2019.
Tara Schlegel, un rappel en cette journée mondiale de l'environnement. 60% des espèces de singes sur Terre sont actuellement en danger d'extinction du fait des activités humaines. En Indonésie, la forêt tropicale sert notamment d'abri aux orangs-outans et aux macaques noirs à crête, deux familles de primates particulièrement menacées. En réponse aux alertes des scientifiques, des initiatives ont été lancées pour lutter contre la disparition progressive de leur habitat et pour sensibiliser les populations locales. Joël Brunner s'est rendu dans deux réserves naturelles à Bornéo et au Célèbre.
Sous la chaleur humide du soleil tropical, Vincent s'active à creuser le sol de la réserve de Tanjung Puting sur l'île de Bornéo. Ici, FNPF, une ONG locale, sensibilise en effet les touristes de passage aux vertus de la reforestation. Le grand brun quadragénaire qui profite de ses congés pour découvrir les orangs-outans et leur milieu est en plein effort.
Je suis en train donc de replanter une variété d'arbres indonésiens qui s'appelle du betapai, qui a l'air d'être de pouvoir fournir des substances pour les dayaks. Donc voilà, j'essaie de me débrouiller parce que en général, j'ai pas la main verte, mais là, ça a l'air d'aller. Donc j'espère que je vais être félicité par les jardiniers locaux.
La tribu locale des Dayaks sert en effet de nombreuses plantes endémiques pour leurs vertus médicinales. Mais pour les orangs-outans, ces arbres font surtout partie de l'écosystème qui les abrite et les nourrit. Depuis 15 ans, plus de 40 000 arbres ont ainsi été plantés ici. Pourtant, du fait de la déforestation, le cadre de vie de ces grands singes tend à se réduire drastiquement. En 20 ans, 60% de la superficie de leur habitat, répartie entre Sumatra et Bornéo, a ainsi disparu. Guide dans cette réserve, Mikey s'arrête devant un tronc robuste.
Cet arbre endémique, par exemple, on l'appelle le gnato. Et les orangs-outans se nourrissent des fruits de cet arbre local qui pousse deux fois par an. Il est absolument impossible de préserver les orangs-outans sans maintenir un environnement et un habitat qui leur soit favorable.
Direction maintenant l'île des Célèbes et la réserve de Tinkoko. Le roi de cette jungle, c'est le macaque noir à crête. Là encore, cette espèce endémique connaît un recul spectaculaire, notamment parce qu'elle est chassée pour sa viande. Yandi, 33 ans, est chercheuse pour le projet Macaque Nigra.
1980, une étude indiquait que ces macaques étaient environ 300 par mètre carré. Cette étude, nous l'avons refaite en 2009 et il n'en restait plus que 45. Par conséquent, nous faisons campagne chaque semaine dans les écoles des environs pour expliquer aux enfants de ne pas tuer d'animaux dans la forêt et de ne pas poser de pièges non plus, pas même pour les oiseaux.
La chercheuse espère ainsi que les enfants véhiculeront efficacement le message à leur famille. Car sans la multiplication d'actions concrètes, comme dans ces réserves, la conjonction du développement des palmiers à huile, de l'exploitation minière comme forestière et de l'appétit des hommes, risque bien de mener ces singes de la jungle à ne bientôt plus se faire entendre que dans les livres.
Joëlle Brunner, correspondante France Culture en Indonésie. Toujours des orages ce soir et un temps encore très agité sur une grande partie de l'Hexagone demain après-midi. Les températures maximales iront de 16 à 26 degrés et même 27 à 30 en plaine d'Alsace. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.